François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah. L'antisémitisme, François Hellebrun, connaît une véritable explosion aux États-Unis. Dernier épisode en date, le rappeur Kanye West qui accuse les Juifs de tous les maux. Et c'est une vague de réactions de soutien aux Juifs américains qui s'est déclenchée sur les réseaux sociaux. On peut citer notamment Jerry Seinfeld ou encore l'actrice Gal Gadot.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans l'affaire Kanye West, d'abord, Kanye West, on ne le sait pas tous, mais c'est un rappeur qui est devenu célèbre il y a une vingtaine d'années, qui est un des rappeurs les plus connus au monde, mais qui a aussi développé tout autour de lui, de manière avec beaucoup de succès, des aventures, des partenariats, notamment avec la marque Adidas, avec Balenciaga, avec Gap. Il s'exprime très souvent, et puis il a, à Paris il y a un mois, il était à Paris, il a souvent été associé d'ailleurs à Donald Trump qui l'a soutenu, et un mois à Paris, il est arrivé avec un t-shirt pour la Fashion Week où il avait marqué « White Lives Matter », c'est-à-dire que les vies blanches comptent, et qui est un des slogans des blancs suprémacistes américains. Kanye West est noir, donc c'était assez surprenant qu'il défende des positions extrémistes de blancs. Après, il a été interviewé et c'est là où il a dérapé. Il a dérapé à plusieurs reprises contre les juifs, les accusant de tous les maux, les accusant de contrôler les médias, les accusant de manipuler tout. Il a même fait des remarques antisémites classiques en disant qu'il voulait que ses enfants célébrent Hanouka parce qu'au moins ils apprendraient à gérer les affaires. Référant au préjugé que les Juifs savent gérer des affaires. Et à partir de là, il y a eu une avalanche de communiqués, de condamnations, d'abord de son ancienne épouse, Kim Kardashian, elle aussi très connue dans le monde des influenceurs, mais plus important, Instagram, il a attaqué Mark Zuckerberg du groupe Meta, qui a Facebook et Instagram. Ses messages ont été enlevés d'Instagram, même ses tweets antisémites ont été enlevés de Twitter. Il y avait un tweet particulièrement antisémite où il disait « Je me mets en DEFCON 3 on Jewish people ». DEFCON 3, ça veut dire « je me mets en défense maximum », c'est le niveau d'alerte contre une attaque nucléaire, contre le peuple juif. Et puis après, il a expliqué qu'il était pas antisémite parce que les Noirs, c'était les plus représentants des Juifs, et c'est aussi une thèse de certains mouvements noirs qui considèrent que les Juifs sont des usurpateurs et que les vrais Juifs sont les Noirs descendants de tribus perdues d'Israël. Donc il est en plein délire. Ce qui est plus intéressant, c'est les représailles qu'il y a eu. Donc il a été interdit d'Instagram et Twitter pendant quelques jours, Instagram étant plus ferme que Twitter comme d'habitude. Et puis il avait des partenariats avec Balenciaga qui s'est arrêté. Balenciaga, c'est le groupe LVMH. Il avait surtout un énorme partenariat avec Adidas, où il avait des chaussures qui portaient son nom. Adidas a arrêté ce partenariat. Et d'ailleurs, certains juifs allemands ont rappelé que le fondateur d'Adidas, Hans Dessler, avait été membre du parti nazi. Donc ce n'était pas formidable pour eux, et Adidas versait 100 millions de dollars par an à Kanye West. Donc ce partenariat est terminé, et Adidas va perdre 250 millions de dollars sur cette histoire en résultat. Et d'ailleurs, le cours de l'action Adidas, depuis un mois, a décroché de 20%. Donc vous voyez qu'au-delà juste d'un dérapage d'un rappeur apparemment avec quelques troubles psychotiques et puis des obsessions très malsaines, à la fois racistes et antisémites, et bien, il y a tout un pan de l'économie des influenceurs, du monde des médias, du monde de la culture, du monde du luxe et des affaires du sport qui se trouve affecté. Et c'est effectivement très significatif. Alors vous dites qu'il y a eu, il y a beaucoup de condamnations, bah comme toujours, c'est l'Anti-Defamation League, l'équivalent de la LICRA aux États-Unis, qui a été à la pointe, qui a été efficace. Et évidemment, par contre, tous les groupes suprémacistes blancs, tous les groupes d'extrême droite, tous les sites et les réseaux sociaux d'extrême droite se sont emparés de l'affaire pour défendre Kanye West. Et donc il y a à nouveau une hystérie autour du non-juif, et cette fois-ci, c'est aux États-Unis, ça prend des proportions très inquiétantes.
Alors, revenons en France, le Rassemblement National, François Hellebrun, essaye avec un certain succès de se présenter comme un parti politique comme les autres. Il s'est même allié à la NUPES pour voter une motion de censure contre le gouvernement il y a quelques jours. Et certains disent que cette nouvelle respectabilité du Rassemblement National pourrait impliquer un changement de fond.
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Le Front National a fêté, il y a un mois, ses 50 ans. Ça s'appelait, en en septembre 72, le Front National. Ça avait été fondé par Ordre Nouveau, qui était un vieux parti nazi français. C'est devenu le Rassemblement National, et je trouve que le changement de nom de Rassemblement National, c'est pas formidable non plus, parce qu'il y a eu un mouvement d'extrême droite de collaboration avec les nazis pendant la guerre, dirigé par Marcel Déat, qui s'appelait le Rassemblement National Populaire. Donc si on veut vraiment changer, on ne prend pas comme nom un nom qui rappelle un mouvement milicien et nazifiant comme celui de Marcel Déat, le Rassemblement National Populaire. Et pour venir à une période plus récente, ce qui est frappant, c'est que rien n'a changé. Le parti est toujours tenu par le clan Le Pen. Marine Le Pen, un de ses meilleurs amis depuis toujours, qui a été un de ses formateurs dans le militantisme politique, c'est Frédéric Chatillon, qui est son trésorier un peu obscur. Frédéric Chatillon était un intermédiaire avec sa société de communication Riwal, avec le financement syrien du Front National et aussi des liens avec la Russie. Et par exemple, sur Frédéric Chatillon, il y avait un ancien conseiller de Marine Le Pen sur les questions internationales qui avait déclaré à France 2 « Le Front National est un mouvement tenu par un noyau national révolutionnaire. Frédéric Chatillon est très proche de Marine Le Pen et a une influence clé dans le système. C'est un ami intime de Soral et violemment antisémite. Il plaisante avec la Shoah et organise des soirées pyjama rayées. Ce clan Chatillon est très puissant et contrôle, je pèse mes mots, Marine Le Pen. » Et donc, ça n'a pas changé. Et quand vous voyez que celui qui est en pointe pour venir diriger le parti s'appelle Jordan Bardella, Jordan Bardella est très doué, il s'exprime très bien, c'est un excellent communicant, il présente bien, il a plutôt un sourire sympathique, mais de qui a-t-il, quand il a commencé au Rassemblement National, il a été l'assistant parlementaire de Jean-François Jalques. Alors, qui est Jean-François Jalques ? Jean-François Jalques, c'est un des cadres historiques du Front National, un grand pétainiste qui se rendait régulièrement à la messe en souvenir de Pétain à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est aussi un négationniste de choc, par exemple en 2000 à propos de l'utilisation du Zyklon B dans l'assassinat de millions de juifs, il déclarait « il est impossible, je dis bien impossible, de l'utiliser dans les exterminations de masse ». Et donc ça, ça a été le député qui a été le formateur politique de Jordan Bardella. Donc, et puis dernier point, il y a eu une enquête qui est régulièrement faite par Fondapol, cet excellent institut d'enquête et de réflexion politique. Et Fondapol fait toujours tous les deux ans, trois ans, un état sur l'antisémitisme en France. Et on voit dans cette étude qu'effectivement, il y a de l'antisémitisme à l'extrême gauche, à la France insoumise notamment. Un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont des préjugés antisémites. On voit qu'il y a de l'antisémitisme chez les musulmans de l'ordre de 50-60%, mais aussi dans l'électorat du Rassemblement National et de Marine Le Pen, il y a aussi la même proportion que chez les musulmans de France, 50 à 60% de ces électeurs qui ont des préjugés antisémites très forts. Donc le Front National n'a pas changé, il s'appelle le Rassemblement National, c'est toujours Marine Le Pen et les vieux de la vieille, même s'il y a des nouveaux lieutenants qui apparaissent. Et donc il est très important de rester très vigilant contre la menace que représente ce parti pour les Français juifs, mais pas seulement pour les Français juifs, pour la République, pour la démocratie et pour l'idée qu'on se fait de la République et de la liberté dans notre pays.
François Helbron, on sent dans la société française une très grande crispation entre l'inflation qui fait exploser les prix des produits de consommation courante, les salaires qui décrochent face à cette inflation et les agressions sexuelles sur des enfants qui provoquent colère et auto-justice. On a ici tous les ingrédients d'une société qui pourrait rapidement se radicaliser.
Tout à fait. Et les dernières élections de ce côté-là n'ont pas été très rassurantes. Une grande désaffection des électeurs, une faible participation, une montée en puissance des partis extrémistes, avec la disparition des partis traditionnels de gouvernement comme les Républicains ou le Parti Socialiste, et avec la montée en puissance de la France Insoumise qui est un parti radical, et le Rassemblement National qu'on vient d'évoquer qui est aussi un parti radical. Et effectivement, ça montre une extrême tension dans la société, qu'on peut comprendre. Les deux ans de Covid ont affecté énormément de personnes, tant sur le plan physique que financier que moral. La crise énergétique est terrible et affecte énormément de petites PME, artisans, mais aussi énormément de particuliers qui souffrent. Il y a un sentiment que nos élites sont déconnectées de la réalité, et donc tout ça favorise un populisme extrême. Et vous avez tout à fait raison de souligner qu'aussi le moindre fait divers, quel que ce qu'il soit horrible ou pas horrible, entraîne des déchaînements. Et le dernier fait divers, c'est l'assassinat crapuleux et inadmissible de Lola, qui a produit un raz-de-marée d'émotion, ce qui est tout à fait normal. Nous avons tous été émus par ce crime horrible qui a frappé une petite fille de 12 ans, mais tout d'un coup, ça a été la dérive vers des accusations de bouc émissaire. La meurtrière, puisqu'elle était d'origine algérienne, tous les Algériens étaient mis dans le même sac. Mais pourtant, les prédateurs de jeunes enfants et les assassins de jeunes enfants, on a eu du Nordal-Lelandais, Émile Louis, Marc Dutroux, Francis Holm, Grégory Villemain qui a été assassiné par un bon français des Vosges, ou Delphine Gibillard qui a été assassinée par son mari. Hélas, le crime est universel, ça frappe toutes les populations, ça frappe toutes les identités, et ce n'était pas la peine d'avoir un déchaînement de haine xénophobe à ce moment-là. Mais ça arrive dans un climat très tendu, où il y a des récupérations politiques malsaines, bon, évidemment du Rassemblement National, d'Éric Zemmour comme d'habitude, mais on l'a vu aussi avec certains leaders républicains. Et donc tout ça, avec des raisons économiques pertinentes comme la crise économique, la crise des stations-service où on manquait d'essence, c'est quand même une preuve d'une faillite de l'État et de l'autorité de l'État une fois de plus, bah, tout ça alimente des sentiments populistes. Et on voit que ces sentiments populistes, bah, c'est dangereux, parce que comme en Italie, l'extrême droite, qui a pratiqué la même stratégie que le Rassemblement national en France de recherche de respectabilité, peut arriver au pouvoir assez facilement, et on sait comment l'extrême droite arrive au pouvoir. On sait aussi que c'est toujours très dur de l'en faire partir, comme on le voit en Pologne, comme on le voit en Hongrie, des régimes qui sont d'extrême droite et qui se renforcent et créent des phénomènes de terreur. Et par exemple en Italie, un certain nombre d'intellectuels d'ailleurs avec qui je suis en contact, sont menacés physiquement dans leur intégrité et pensent à fuir leur pays, et pourtant ça c'est l'Europe de 2022, l'Europe soi-disant libérale et démocratique, et donc la démocratie comme toujours est fragile, il faut la défendre, et les juifs sont souvent en première ligne pour cette défense, parce qu'ils sont très souvent les vigiles et les gardiens de la liberté.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes professeur associé à Sciences Po et vice-président du mémorial de la Shoah. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.